Chapitre 33. Presque tout le mur de droite de la cabane était occupé par une grande cheminée construite avec des pierres rondes. Au fond de la première pièce, deux passages protégés par de simples rideaux donnaient accès aux autres salles. Une lampe était posée sur le manteau de la cheminée et une autre sur les tréteaux qui tenaient lieu de table. Aucune n'était allumée. Dans le foyer, des bûches de chêne crépitaient en produisant une fumée à l'odeur très agréable, et une marmite suspendue à un trépied restait au chaud en permanence. Après être resté si longtemps exposé aux intempéries, Jensen trouva qu'il faisait étouffant dans la cabane. Le guérisseur étendit le petit garçon sur une des paillasses alignées en face de la cheminée. Agenouillée près de son fils, la mère regarda le rogmose débarrasser l'enfant de ses multiples couvertures. Jensen en profita pour examiner les lieux et s'assurer qu'aucune mauvaise surprise ne les guettait. Les cheminées des autres cabanes ne fumaient pas et elle n'avait vu aucune trace dans la neige. C'était rassurant, mais ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait personne d'autre dans le coin. La jeune femme approcha de la cheminée en contournant la table, ce qui lui permit de jeter un coup d'œil dans les deux pièces de derrière. Deux minuscules chambres à coucher, rien de plus, avec un mobilier et un confort minimum. Alors que Jensen se réchauffait les mains au-dessus des flammes, le guérisseur confia l'enfant aux bons soins de sa mère, qui entonna une berceuse et approcha d'une grande armoire d'où il sortit toute une collection de pots et de flacons. « Vous pouvez allumer la lampe ? » demanda-t-il avant de poser sur la table les divers récipients. Jensen cassa une longue brindille sur une des bûches empilées près de la cheminée. La passant dans les flammes, elle attendit qu'elle s'embrase puis s'en servit pour allumer la lampe. Très concentré, le guérisseur était en train de mélanger plusieurs poudres dans une coupe blanche.
« Comment va l'enfant ? »
demanda Jensen à voix basse. « Pas très bien, » répondit l'homme.
« Que puis-je faire pour vous aider ?»«
Eh bien, si vous y tenez, allez donc chercher le mortier et le pilon dans la grande armoire. » Jensen s'approcha du meuble, trouva très vite les deux objets et vint les poser sur la table à côté de la lampe. Le guerrier ajoutait à présent à sa préparation une poudre couleur moutarde. Très concentré, il n'avait pas pris le temps d'enlever son manteau, mais il eut la bonne idée d'abaisser sa capuche et Jensen put enfin l'étudier à loisir. Contrairement à celui du sorcier Hal, son visage ne fascina pas Jensen. Aucun de ses traits agréables au demeurant ne lui était familier, bref, il ne s'agissait sûrement pas de Dreyfan. Le guérisseur désigna un flacon en verre vert. « Vous auriez la gentillesse de réduire en poudre un peu de ce qu'il y a dedans ?» Alors qu'il courait au fond de la pièce pour prendre une grande jatte posée sur une étagère étonnamment haute, Jensen dévissa le bouchon du flacon et sursauta en découvrant les étranges petits objets qu'il contenait. Leur forme surtout était surprenante. S'emparant d'un des mystérieux composants, elle le fit tourner entre ses doigts et constata qu'il était plat, noir et rond. À la lumière de la lampe, elle vit qu'il s'agissait d'un végétal séché, et tout ce que contenait le flacon avait exactement la même forme. Des dizaines de grasses miniatures. Comme pour le symbole magique, on distinguait un cercle extérieur, un carré, et un cercle plus petit enchâssé à l'intérieur, et tout cela était lié par une quatrième structure fibreuse en forme d'étoile. Même s'il y avait quelques différences avec les grâces que Jensen avait appris à dessiner, les similitudes étaient frappantes.
« Qu'est-ce que c'est ? »
demanda-t-elle. Le guérisseur se débarrassa enfin de son manteau et releva les manches de sa tunique toute simple. « Un fragment de fleur, la base séchée du filament d'une rose à fièvre des montagnes. Ces fleurs sont très jolies et je suis sûr que vous en avez déjà vu. » Selon l'endroit où elles poussent, leur couleur peut varier, mais elles sont mauves le plus souvent. Votre mari ne vous a jamais apporté un bouquet de roses à fièvre des montagnes ? Jensen s'empourpra jusqu'aux oreilles.
Ce n'est pas... Eh bien, nous voyageons ensemble, mais nous sommes simplement des amis.
Bien, bien, fit le guérisseur, pas plus intéressé que ça. Il tendit un index. Vous voyez ? Les étoiles sont fixées ici, là et ici. Quand on les retire, ainsi que les étamines, ce qui reste de la fleur, son cœur si vous préférez, a cette forme des plus remarquables.
Une grâce miniature, fit Jensen étrangement ému.
C'est ça, oui. Et comme les grâces, ces fleurs peuvent être à la fois bénéfiques et mortelles.
Comment peut-on être les deux en même temps?
Une de ces fleurs séchées, une fois réduite en poudre et ajoutée à la potion que je prépare, aidera l'enfant à dormir profondément et à lutter contre la fièvre. Deux fleurs, ou davantage, font monter la température d'une personne en parfaite santé.
Vraiment?
Le guérisseur ne sembla pas étonné par l'incrédulité de Jensen. Visiblement, ce n'était pas la première fois qu'il répondait à des questions sur cette étrange rose.
Si vous ingériez une vingtaine de fleurs ou une trentaine selon la variété, personne ne pourrait vous sauver. Les fièvres de ce type sont mortelles. La fleur tire son nom de cette caractéristique foudroyante.
Le guérisseur eut un sourire espiègle.
Un nom qui va très bien à une fleur si intimement associée à l'amour.
Sans doute, acquiesça distraitement Jensen. Si j'en mangeais plus d'une, mais beaucoup moins que 20, serais-je également condamné?
Une personne assez idiote pour ajouter une dizaine de fleurs à son infusion aurait une fièvre de cheval, c'est certain.
Mais finirait-elle par en mourir?
Non. Cette quantité-là rendrait malade, mais on est remis au bout d'un ou deux jours.
Jensen étudia un moment le flacon de fausse grâce empoisonnée, puis le reposa sur la table.
En toucher une ne vous fera pas de mal, dit le guérisseur. Pour être affecté, il faut ingérer ces fleurs, et quand on en ajoute une seule à d'autres ingrédients, l'effet thérapeutique est excellent.
Jensen rougit d'embarras, puis reprit la fleur séchée qu'elle avait lâchée, la déposa dans le mortier et trouva qu'elle ressemblait plus que jamais à une grâce.
Si c'était pour un adulte encore conscient, j'en émietterais simplement une entre mes doigts,
dit le guérisseur en ajoutant un peu de miel dans sa coupe.
Mais notre patient est très jeune et plongé dans le coma. Le faire boire ne sera pas facile, donc réduisez la fleur en poussière.
Dès que la jeune femme eut terminé, le guérisseur ajouta la poudre sombre à sa préparation. Comme la grâce à laquelle elle ressemblait tant, cette rose pouvait être à la fois un bienfait et un fléau. Jensen se demanda ce que Sébastien penserait d'une chose pareille. Et le frère Narève?
Ordonnerait-il l'élimination de ces fleurs parce qu'elles pouvaient tuer au lieu de sauver?
Jensen rangea les flacons et les pots du guérisseur pendant qu'il se chargeait de faire boire la potion à l'enfant. Avec l'aide de la mère, il réussit à faire avaler le médicament à son patient, pratiquement goutte après goutte, mais l'essentiel était le résultat. Totalement inconscient, le petit garçon n'avait pas ouvert un œil depuis que Jensen l'avait vu pour la première fois. S'il s'en sortait, il pourrait remercier le Créateur. Sébastien revint de l'écurie sur ses entrefaites. Avant qu'il referme la porte, Jensen vit que des étoiles brillaient au firmament. Lorsque le ciel s'éclaircissait le soir et que le vent tombait, ça annonçait en principe une nuit glaciale. Sébastien approcha de la cheminée pour se réchauffer. Jensen ajouta une bûche dans les flammes et utilisa le tisonnier pour la placer idéalement afin qu'elle s'embrasse bien. Une main sur l'épaule de la femme, le guérisseur l'encourageait et la soutenait pendant qu'elle finissait de faire boire l'enfant. Voyant que tout se passait bien, il la laissa finir seule, alla pendre son manteau à un crochet sur la porte, puis rejoignit Jensen et Sébastien devant la cheminée.
« Des parents à vous ?»
demanda-t-il en désignant la femme et l'enfant.
« Non, »
répondit Jensen. Elle retira également son manteau et le posa sur un des bancs qui flanquait la table.
« Nous les avons rencontrés sur la route et la mère nous a demandé de l'aide. Bien entendu, nous avons accepté de les conduire jusqu'ici. »«
Je vois. Eh bien, elle pourra dormir ici avec le petit parce qu'il faudra que je le surveille pendant la nuit. »
Le guérisseur scia imperceptiblement quand il baissa les yeux et aperçut le couteau très spécial que Jensen portait à la ceinture.
« Si vous avez faim, il y a du ragoût dans cette marmite. Nous prenons toujours garde à pouvoir nourrir nos visiteurs. Comme il est un peu tard pour vous remettre en route, n'hésitez pas à occuper de cabanes cette nuit. Elles sont toutes vides, donc vous aurez l'embarras du choix. »
Jensen faillit dire qu'une seule cabane suffirait, mais... elle se souvint avoir annoncé au guérisseur que Sébastien n'était pas son mari. Ne voulant pas que son interlocuteur se fasse des idées, elle préféra en rester là sur ce sujet.
De plus, s'il lui semblait naturel de dormir à la belle étoile avec Sébastien, l'idée de partager une cabane la dérangeait un peu. Pourtant, tout au long de leur voyage vers le palais du peuple, ils avaient souvent dormi dans une seule chambre d'hôtel, mais c'était avant le baiser, et ça changeait tout.
C'est ici que vivent les Rogmos ?
Demanda Jensen en faisant un grand geste circulaire. Le guérisseur sourit gentiment. Il trouvait la question amusante, ça se voyait, mais ne voulait pas se moquer de l'ignorance de son interlocutrice.
Bien sûr que non. Il s'agit d'un des petits avant-postes que nous utilisons quand nous voyageons. Les gens qui ont besoin de nous savent qu'ils y trouveront de l'aide.
L'enfant a eu de la chance que vous soyez là, dit Sébastien.
Le guérisseur sonda un moment le regard du compagnon de Jensen.
« S'il survit, je me féliciterai aussi d'avoir été là, mais il est rare qu'il n'y ait pas au moins un frère ici. »«
Pourquoi donc ?» demanda Jensen.
« Parce que les avant-postes comme celui-ci nous fournissent des revenus supplémentaires. Nous touchons des gens qui ne pourraient pas aller chez nous. »«
Des revenus ?»
s'étonna Jensen.
Je pensais que les Rogmos étaient des bénévoles.
Le toit, la chaleur et la nourriture que nous proposons à nos invités ne sont pas là par magie, simplement parce que nous en avons besoin. Les gens qui ont recours à nos connaissances, acquises au cours de toute une vie d'études, doivent nous apporter une contribution en échange de ce qu'ils reçoivent. Si nous mourons de faim, où trouverons-nous l'énergie d'aider les autres? Quand on en a les moyens, la charité est un choix personnel, mais... pour un groupe tel que le nôtre, le bénévolat, comme vous dites, serait un synonyme poli d'esclavage.
Le guérisseur ne visait pas spécialement Jensen, bien entendu. Pourtant, elle se sentit frappée de plein fouet. N'avait-elle pas toujours attendu que les autres l'aident comme si c'était son dû? Ne leur demandait-elle pas d'oublier leurs propres intérêts au profit des siens et sans se soucier de ce que ça leur coûtait? Sébastien plongea une main dans sa poche et en sortit une pièce d'argent qu'il tendit au guérisseur.
« Voici notre contribution, »
dit-il simplement. Le guérisseur jeta un rapide coup d'œil au couteau de Jensen.
« Pour vous, ce n'est pas nécessaire, » dit-il.
« Nous y tenons, »
insista la jeune femme. Penser que cet argent n'était pas vraiment à elle la mettait mal à l'aise. Pour payer son gîte et son couvert, elle aurait préféré donner une pièce honnêtement gagnée, pas volée à des cadavres. Le guérisseur inclina la tête pour signifier qu'il acceptait le paiement.
« Il y a des assiettes dans l'armoire sur la droite. Servez-vous, je vous en prie, moi je dois m'occuper de l'enfant. »
Jensen et Sébastien s'assirent sur un des bancs et dévorèrent chacun deux portions du délicieux ragoût, la meilleure viande qu'ils mangeaient depuis les tourtes offertes par Tom.
« Voilà une bonne action qui tourne à notre avantage, » souffla Sébastien.
Jensen jeta un bref coup d'œil au guérisseur agenouillé près de l'enfant à côté de la mère. « Que veux-tu dire ?»«
Les chevaux seront bien nourris et bien reposés, nous aussi, par la même occasion. Nos poursuivants n'auront pas cette chance et c'est très bien pour nous. »«
Tu crois qu'ils savent où nous sommes ? Et tu as peur qu'ils aient gagné du terrain ?»
Sébastien haussa les épaules, mangea une nouvelle cuillerée de ragoût, puis répondit
« Je ne vois pas comment ils auraient réussi ça, mais il leur est déjà arrivé de nous surprendre, pas vrai ?»
Jensen dut admettre que c'était bien raisonné. Après avoir sobrement acquiescé, elle recommença à manger.
Quoi qu'il en soit, les chevaux avaient besoin de repos et nous aussi. Demain, nous serons en pleine forme et ça nous aidera à mettre encore plus de distance entre nos poursuivants et nous. Tu as très bien fait de me rappeler que le Créateur nous incite à aider notre prochain.
Jensen fut ravi de voir sourire son compagnon.
J'espère que ce pauvre petit s'en sortira.
Moi aussi.
« Je vais faire la vaisselle, puis voir si nos amis ont besoin d'aide. »
Sébastien baissa les yeux sur son assiette vide.
« Bonne idée. Tu prendras l'avant-dernière cabane et moi la dernière. Pendant que tu en termines ici, j'irai allumer un feu dans ta cheminée. »
Jensen attendit que son ami ait posé sa cuillère, puis elle lui prit la main.
« Dors bien. »
Sébastien sourit, se leva et alla murmurer quelques mots à l'oreille du guérisseur. Le voyant hocher la tête, Jensen devina qu'il avait dû le remercier et lui souhaiter une bonne nuit. Toujours agenouillée auprès de son enfant dont elle caressait le front, la mère remercia une fois encore Sébastien. Dès que son compagnon fut sorti, Jensen apporta une assiette de ragoût à la pauvre femme qui devait mourir de faim. Concentrée sur son fils, elle accepta distraitement l'attention et commença à manger du bout des dents. Cédant à l'insistance de Jensen, le guérisseur consentit à venir s'asseoir à table pour se restaurer.
« Ce ragoût est très bon, »
dit-il quand il l'eut goûté, même si c'est moi qui l'ai fait. »
Jensen assura qu'elle s'était régalée aussi. Laissant l'homme manger en paix, elle alla laver les deux assiettes sales dans un seau d'eau, puis ajouta des bûches dans la cheminée. Des flammèches jaillirent aussitôt du foyer. Le chêne brûlait bien, mais il était un peu dangereux quand on n'avait pas de pare-feu, et très salissant. S'emparant d'un balai et d'une pelle, Jensen ramassa les cendres éparses et les remit dans le foyer. Quand le guérisseur eut fini de manger, elle vint s'asseoir à côté de lui sur le banc. « Nous partirons tôt demain matin. Si nous ne vous voyons pas, j'aimerais vous remercier de votre aide, pas seulement pour l'enfant, mais aussi pour nous. »
À l'expression du guérisseur, Jensen devina ce qu'il pensait. Le couteau, croyait-il, expliquait pourquoi les deux jeunes gens, des agents en mission, étaient obligés de partir aux premières lueurs de l'aube. Bien entendu, Jensen se garda de le détromper.
« Nous sommes reconnaissants envers ceux dont les contributions sont généreuses, » dit l'homme. « Cela nous aide à mieux secourir les pauvres. »
Des propos courtois pour passer le temps en attendant que Jensen se décide à poser la question qui lui brûlait les lèvres. Décidément, ce guérisseur était subtil.
« Je voudrais en savoir plus sur un homme qui vit avec les Rogmos, d'après ce qu'on dit. J'ignore s'il est un guérisseur ou non. Vous le connaissez peut-être ?»«
Eh bien, dites-moi son nom et nous verrons. »«
Dreyfan. »
Pour la première fois, le masque d'impassibilité du guérisseur se lézarda.
« Dreyfan était le rejeton maudit de Darkenral !»
Jensen se força à ne pas réagir face à cette déclaration enflammée. Avec l'arme qu'elle portait, on la croyait très liée à la maison Ral, et l'homme voulait peut-être simplement lui être agréable. Pourtant, il semblait sincère.
« Je le savais, » dit Jensen, « et j'ai quand même besoin de le voir. »
« Vous arrivez trop tard, »
fit le guérisseur avec un grand sourire.
« Vous connaissez les dévotions. Le Seigneur Ral nous protège. »«
Désolé, mais je ne comprends pas. »«
Le Seigneur Ral, le nouveau, bien entendu, nous a débarrassé du fils bâtard de Darkenral. Il l'a tué pour notre bien à tous. »« Jensen !»
La jeune femme se raidit, terrorisée comme si des serres invisibles venaient de se refermer sur sa gorge.
« Vous en êtes sûr ? »
parvint-elle à dire.
« C'est vraiment le Seigneur Ral qui a fait ça ?»
De pieux discours ont circulé au sujet de la fin de Dreyfan. On a raconté qu'il était mort au service du peuple d'Aran, mais comme tous les Rogmos, je pense que c'est le Seigneur Ral qui l'a tué.
« Jensen !» De pieux discours.
Bien entendu, puisque personne n'aurait eu le courage de lancer des accusations de meurtre à la face du Seigneur Ral. En un sens, toutes les victimes de ce monstre mourraient au service du peuple d'Aran. Jensen frissonna en pensant que le nouveau seigneur n'en était plus qu'à un assassinat d'elle. Darkenral n'avait jamais débusqué Dreyfan. Richard y était arrivé. Et bientôt ce serait le tour de la jeune femme. Jensen croisa les mains sous la table et espéra que son visage ne trahissait rien de ses angoisses. Ce guérisseur était à l'évidence un loyal serviteur du Seigneur Ral. Elle ne devait surtout pas lui révéler ses véritables sentiments.
« Renonce !»
Sa véritable colère.
« Renonce !»
Ce verbe retentissait dans sa tête, y produisant un vacarme assourdissant.
« Renonce !»
Et la tentation de céder se faisait chaque fois plus forte.